En fait, en Espagne, je suis arrivé là-bas et l'ami que je t'avais dit qui était en Espagne, donc c'est ce garçon qui travaillait dans la boîte à Anzer,
Ouais.
que j'ai retrouvé plus tard à Benidorm, avait un projet d'acheter toute une petite rue d'un village qui était à 10 km dans la montagne, Finestrat, pour en faire une rue d'artistes, d'artisans, où les gens pourraient travailler collectivement, vivre, faire des fêtes, une sorte de communauté dans un petit village. Et il a commencé par acheter une maison. Et puis moi j'ai dit, ah, je marche dans ton plan, seulement j'ai pas de thune. Et il m'a avancé les 3 000 francs pour payer cette maison. 3 000 francs. Une petite maison mitoyenne, comme ça, dans une rue. Et je revenais en Suisse, en fait, pour travailler, pour payer cette baraque.
Ok, ouais.
Sinon, je serais resté, je pense, là-bas.
Puis cette baraque, tu l'as toujours ou...
Je l'ai revendue par la suite parce que le projet s'est pas concrétisé. Nous avons été que les deux, en fait, à acheter les autres, on fait autre chose. Je l'ai vendu il y a 16 ans quand j'ai voulu reprendre mon petit bistrot au bord du Doubs.
Ok.
Il me fallait 12 000 balles pour me mettre sur la table. J'ai vendu cette maison 12 000 balles.
Pas mal, comme...
On met 30 ans après. Hein,
Ça a quand même un investissement, comme... Il y en a eu pas mal qui ont fait comme ça, en Espagne surtout. C'est presque de la spéculation immobilière
C'était pas le but au début.
spontanée, quoi.
Ouais. Et puis pendant toutes mes années d'incarcération, il y a personne qui s'occupait. Si, des gens qui allaient vivre, dormir un peu, passer quelques mois, et puis payer les frais les impôts fonciers,
Ouais.
genre 100 francs par année. Elle était toujours restée à mon nom.
Ok, ouais. Et donc on arrive gentiment à ce moment où tu reviens en Suisse, puis du coup comment ils sont arrivés à te prendre pour l'armée, comment ils sont arrivés à te retrouver?
J'étais venu à Nouvel An, visiter ma famille, dans le canton de Fribourg. Et puis pour repartir, je devais passer par Lausanne. Je me suis toujours demandé comment faire pour faire Fribourg-Genève sans passer par le canton de Vaud. Mais j'ai encore pas trouvé de solution. Bref, je me retrouve à Lausanne. Et vers les 1 h du matin, je me suis fait interpeller par une patrouille. Et j'ai pris la fuite. Et on s'est bagarré dans la rue, là, la rue de la Palue, dans le vieux quartier de Lausanne. On s'est bagarré avec un flic, son collègue est arrivé avec la voiture, il avait fait un tour. Il disait aux gens, aidez-moi, aidez-moi, c'est un bandit. Et on se bagarrait par terre, tu sais.
Ouais.
Et puis moi je disais aux gens, non, ne l'aidez pas, ne l'aidez pas, je suis pas un bandit.
Mais du coup, ils ont su directement que c'était toi ou parce que il y avait une...
Non, j'avais une dégaine bizarre. Peut-être j'étais un peu saoul, puis c'était 1 h du matin, et puis ils ont décidé de contrôler un jeune.
Ok, ouais.
C'était moi. J'étais sur le grand pont. J'ai réussi à prendre la fuite jusqu'à la Palue, quand même, là. Oh, et puis ensuite, j'avais mes papiers sur moi.
Ouais.
Alors ils m'ont envoyé à Fribourg, et puis après à Bellechasse, pour faire mes 18 mois de prison.
Ok, direct, sans...
Oh, direct, ouais.
Ok. Puis c'était quoi le... Mais t'as dû passer par le juge comme ça
Non, j'avais
ou...
été condamné déjà.
Ah ouais, par
Oui,
contumace,
puis
ok.
j'étais ailleurs,
Ouais,
contumace.
contumace. Et donc c'était quoi le... La sentence, c'est quoi le déserteur, c'est...
Insoumission volontaire.
Ok, ouais.
J'avais jamais eu envie d'aller objecter.
Ouais.
Daniel a objecté. Beaucoup d'autres ont objecté. Moi, je n'estimais pas nécessaire, je n'avais pas envie d'aller me justifier devant un tribunal militaire, donc, dont je ne reconnais pas la légitimité. Ça ne m'intéressait même pas de discuter avec eux. Je ne veux pas faire l'armée, je suis un homme libre, je croyais. Laissez-moi libre, foutez-moi la paix. Tu vois? Et je sais aussi très bien que je n'avais pas de motivation religieuse. J'étais déjà dehors de l'Église catholique dans ma tête depuis longtemps. Donc je n'avais pas d'arguments à leur objecter. Tu vois? Si je voulais rester sincère, c'était pas possible. Et puis les raisons politiques non plus, j'avais pas de raisons politiques, puisqu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Suisse. Il n'y a pas de répression politique, c'était quasiment impossible. Et puis ça ne m'intéressait pas d'aller me justifier devant eux. Donc j'ai tout simplement ignoré ces ordres de marche comme quelque chose qui ne me concerne pas. Tu vois? Insoumission volontaire, 18 mois, 3 fois 6 mois.
Du coup, ça t'a fait quoi quand ils t'ont pris quand t'es dit, bon, voilà, maintenant pendant 18 mois, je suis.
Je suis en tôle. Je voulais m'évader. On m'a mis à Colonie 1, à Bellechasse. Là, il y avait d'autres objecteurs. J'ai pu discuter avec eux. Ça aussi, ça a permis à me former. Il y avait un journal dans le district de la Broye-Estavayer-le-Lac qui s'appelle encore Le Républicain. Son patron, Borcar, il avait été en taule une fois pour des histoires de escroquerie ou je sais pas quoi. Il avait été en taule à Bellechasse et il éditait son journal à Estavayer-le-Lac, donc à 60 km du pénitencier de Bellechasse. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il critiquait le système pénitentiaire fribourgeois, Bellechasse, et là-bas on aimait beaucoup, on le faisait rentrer clandestinement.
Ok.
Et puis on aimait beaucoup le lire. Et les objecteurs, ils m'ont aussi fait découvrir un autre journal qui s'appelait Passe-Muraille, qui était édité par des Vaudois. C'était le début du. C'était avant le comité Action Prison de Michel Glardon, Anne-Catherine Ménétret. Ça s'appelait Passe-Muraille.
Action prison, non,
CAP,
cap prison.
Comité Action Prison.
Puis, est-ce qu'il y avait un profil des objecteurs de conscience, est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y avait un. C'était plus ou moins les mêmes types ou c'est.
Ils avaient des motivations éthiques, religieuses ou éthiques. Il y avait quelques témoins de Jéhovah, puis des éthiques. Comme Daniel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas, c'était politique, lui, éthique.
Mais du coup, lui, par exemple, c'était en universitaire. Du coup, est-ce qu'il y avait une majorité d'universitaires, par exemple, ou.
D'intellectuel, lui,
Ouais.
d'instituteur, oui,
Donc,
étudiant,
du coup, toi,
oui,
t'étais un peu.
le prolo,
Ouais.
oui.
Puis, comment ça se passait
Bien, très bien. Il n'y avait pas de dissension dans cette équipe d'objecteurs. Nous étions antimilitaristes, et puis on était même une équipe, on était assez soudés. Et cette équipe, surtout les plus intellectuels que moi, avait beaucoup d'influence sur les autres prisonniers. Donc, d'une part, soit ils étaient méprisés par les voyous. Ouais, vous êtes en tôle, mais vous n'avez rien fait, c'est facile, non, non, vous allez ressortir, et puis vous connaissez rien. Hein. Et puis d'autres qui profitaient des discours politiques ou philosophiques
Ouais.
de ces objecteurs de conscience. C'était très bien ce mélange, je trouve.
Puis Daniel, je reviendrai avec lui aussi sur ce point, mais il y a un peu cette phrase que les gens qui n'ont pas été aussi en prison connaissent, mais qui ont dit justement que la prison c'est la meilleure école du crime. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas
Pour un jeune, oui.
pour un jeune, oui.
Pour un jeune, oui.
Mais pourquoi les prisonniers, ils ont, comme tu disais, ils ont tendance à dire vous avez pas fait machin, donc ça donne envie de le faire. Donc, comment se passe cette école, quelque part?
Non, moi j'avais déjà commis des délits mineurs avant cette incarcération.
C'est quoi des lumineurs?
Des délits mineurs, disons.
Ok.
Genre vol.
Mais pour ça,
Cambriolage.
t'avais été
Jamais été condamné, arrêté. Mais c'était en France et c'était pour survivre. Parce qu'en France, il n'y avait pas trop de boulot, je gagnais rien, et puis c'était pour survivre.
Puis c'est là où, dans le livre, t'écris, quand cette anecdote Où tu étais dans, je sais pas dans quelle région, mais j'imaginais que c'était le Doubs parce que tu parles de beaucoup de neige, puis tu vas dans une ferme
Non, j'étais en Aveyron.
en Aveyron. Puis
Pas loin du Lot.
ça c'était avant donc.
C'était, c'est, oui, les hivers, quand je quittais l'Espagne. Et si je venais pas en Suisse, je restais en France.
Ok, ouais. Puis par rapport à cette anecdote-là que tu as écrit, mais justement, il y a un truc moi personnel qui m'intéresse parce que il me semble que tu l'écris pas, ou alors j'ai oublié, mais tu te fais tirer dessus par le frère.
Non, il m'a pas tiré dessus.
Ok.
Moi, je voulais mourir. Je suis revenu. J'aurais voulu revenir. Il m'a chassé. Je suis parti. D'abord en reculant, puis après je suis parti. Puis je me suis dit, mais t'es con, reste, bordel. Tu dois pas toujours prendre la fuite, merde. Et là, dans mon fantasme, je voulais revenir sur le moment. Puis l'affronter et lui dire ce que j'ai dit dans le bouquin. Parce il y a deux fins de l'histoire. Ouais, c'est vrai que ça peut porter ambiguïté, mais s'il m'avait tiré dessus, dans l'écriture, j'ai reçu la cartouche à pleine poitrine, je serais mort.
Ouais.
Non, je suis pas mort, j'ai pas été blessé, rien, puisque je suis pas revenu.
Ouais.
Mais j'avais envie de revenir et de lui tenir ce discours et puis de continuer ma vie là-bas, à faire cette ferme, tu
Ouais.
vois. Mais je l'ai pas fait puisque je suis parti.
OK.
C'était un désir de revenir.
D'accord. Donc en rentrant un peu dans ces 18 mois, une question peut-être un peu à la con, mais je veux dire, quand t'es arrivé là-bas, et puis tu rencontres Daniel, machin, quel est ton premier, dans quelle est ta première impression quand tu le rencontres, si tu t'en souviens?
Il m'a plu parce qu'il était plus en colère que moi. Lui, il était en colère. Il voulait, je dis pas, se venger, mais il était plus en colère que moi. Il m'a aussi expliqué pourquoi. Il croyait au système, il croyait dans la justice de ce système, il croyait peut-être en l'armée, des choses comme ça. Puis il s'est rendu compte que c'était une arnaque, et puis il avait envie de. Il s'est senti floué. Lui, il s'était senti floué par son incarcération. Il l'a beaucoup moins accepté que moi. Pour moi, ça faisait partie du parcours déjà, quoi. Je m'estimais même heureux d'avoir tenu jusque-là, tu vois.
Ouais.
Voilà, ça fait partie du parcours. Puis je vais pouvoir m'évader, je m'évaderai, puis des choses comme ça. Mais c'est justement Daniel qui m'a déconseillé de partir, parce que par la suite, on aurait tellement beaucoup de choses à faire, ensemble, si tu es d'accord.
Mais vous ne connaissez pas avant, vous
Non,
vous êtes
on
pas
se compte,
croisés. C'est
non.
vraiment une première rencontre à ce moment-là. Puis du coup, vous parlez beaucoup, comme tu dis, et toute cette colère, j'imagine, ça a dû passer par des discours. Mais est-ce que c'est passé aussi par des livres? Est-ce qu'il y a eu des échanges aussi avec des textes, des trucs
Là-bas, il m'a fait lire Sigler.
Ok, c'est Jean Sigler.
Il est resté peu de temps avec moi parce qu'il avait été incarcéré pour 6 mois, je crois, et on a fait quoi? Peut-être 2, 3 mois ensemble, c'est tout.
Ok. Ouais.
Il était libéré, je venais à peine d'arriver, quoi.
Ouais. Et puis du coup, les autres 13 mois que t'as fait.
Je les ai pas fait. J'ai fait mes premiers 6 mois, mais au bout de 4 mois et demi, il y a un instructeur militaire, un capitaine de l'armée suisse qui est venu me visiter. C'était au mois de mai, je crois. Et il m'a proposé un deal. Il m'a dit, bon, vous avez pris 3 fois 6 mois, vous êtes en train de faire votre première peine, mais j'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez faire recours pour les 12 mois qui vous restent. Et si devant moi, vous signez cette feuille, vous vous engagez à aller à Savatan, à l'école de recrue, au mois de juillet, la prochaine école de recrue, si vous vous engagez par écrit, vous faites recours, je transmets votre recours à ma hiérarchie, ou à la justice militaire, et je vous promets que ce recours sera accepté. Tu vois?
Ouais.
On m'a proposé ce deal, comme ça. Et déjà, Daniel m'avait proposé de ne pas m'évader pour pouvoir sortir libre. Libre de mes mouvements, de nos mouvements, afin de pouvoir faire la révolution. C'était le deuxième argument. En fait, je dis, je ne veux pas attendre encore plus d'une année pour faire cette révolution. Tu vois? Donc le capitaine, il m'a aidé, enfin, il m'a donné les outils pour sortir. Et j'ai accepté. En écrivant, manuellement, mais par tous les moyens légaux, j'essaierai de me faire exclure de l'armée. Il m'a même dit, le capitaine, mais vous n'allez pas écrire ça, c'est contre vous. Je dis, oui, mais je vais être honnête. Par contre, je m'engage à aller à Saint-Vatan. Alors il a dû penser, ok, il écrit ça, mais il va faire l'armée comme tout le monde, et puis voilà, ouais. Ça passera, quoi.
T'étais jamais allé?
Si, ah. Si, une parole, c'est une parole.
Ouais.
Si, si, j'y suis allé.
Du coup, t'es allé là-bas?
J'étais libéré en mai, juin, je crois. Ils m'ont donné une petite conditionnelle, une remise de peine sur les 6 mois, normal. Puis en juillet, ben, je me suis présenté à la caserne de Saint-Vatan. Mais il y a 5 jours que je bouffais pas. Puis j'ai continué à faire la grève de la faim. Je dormais dans les couloirs. Je refusais de faire les ordres. J'ai pris mon fusil, je l'ai balancé plusieurs fois contre le caporal. J'ai disloqué la section. Je faisais le bordel. Voilà. Et puis le 6 ou 7e jour, on a touché notre lieutenant, un Tessinois, de 21 ans. J'étais plus âgé que lui déjà. Et puis, au lieu d'aller à gauche, j'allais à droite. Au lieu d'aller à droite, j'allais à gauche. Et puis, il m'a interpellé. Je l'ai engueulé. Il m'a engueulé plus fort. J'ai engueulé plus fort. À un moment donné, j'ai pris mon fusil. Je l'ai sauté dessus. Puis, je lui ai cassé la gueule.
Ouais.
Avec la crosse. Pas avec le canon. Il est tombé. Les caporaux m'ont pris. M'ont mis au cachot. Et puis après, discussion. Alors, ils voulaient me mettre à la cuisine. Non, à la cuisine, non, pas à la cuisine. Moi, je voulais pas rester dans cette caserne, quoi. Je voulais partir, mais je voulais pas retourner à Bellechasse. Mmh. Tu vois, quand même, quoi. On discutait dans une pièce, avec 3 officiers, 3 militaires, puis il y avait un fusil d'assaut posé contre un mur. Et dans la discussion, j'ai commencé à échafauder mon plan, mais tout à coup, je l'ai trouvé, j'ai regardé le fusil. Tu sais, je regardais le fusil, je les écoutais, je regardais le fusil. Puis quand j'ai bien vu qu'ils avaient vu que je regardais le fusil, je me suis apprêté à bondir sur le fusil. Mais il y en a un qui m'a précédé, évidemment, parce que je voulais pas bondir sur le fusil, je voulais pas y arriver. À ce moment-là, j'ai donné ma dernière cartouche. J'ai dit, je préfère retourner en prison. Là, ça a changé. Ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'un Suisse... sans casier judiciaire, famille honorable, qui a fait, d'accord, un refus d'armée, mal expliqué, etc., n'importe quoi, il est... s'il veut pas faire l'armée, s'il préfère la prison à l'armée, c'est qu'il est pas normal. Tu vois?
Ouais.
Et ils m'ont mis à Marsens, hôpital psychiatrique fribourgeois. Il y a une thérapeute suisse allemande qui m'a psychanalysé, très sympathique. Et puis elle a fait un rapport selon lequel je n'étais pas trop apte à faire l'armée. Un rapport psychiatrique.
Ouais.
Après 21 jours, depuis le début d'entrée à Saint-Vatan jusqu'à Marsens, il faut 21 jours avant de faire partir les soldats à la maison. Ils m'ont renvoyé à la maison.
Ok.
Libre. En attente du procès pour les 12 mois qui me restaient.
Ouais. Oui, parce que du coup, le deal, il n'avait pas été respecté.
Oui, moi, j'ai respecté mon deal, mais bon. Et puis, une année après, j'étais convoqué, j'étais jugé par un tribunal militaire, et j'ai pris 6 mois avec sursis.
OK.
Voilà. Mais là, j'avais déjà commencé mes attaques contre le patrimoine, les recherches d'armes, de munitions, de talkie-walkie, de papiers d'identité ouais. pour notre groupe qui se formait.
OK. Voilà. Donc, juste pour revenir un pas en arrière sur les 2-3 mois que tu passes avec Daniel. Donc, bon, il y a Jean Sigla, tu te souviens pas le titre du livre pour que je puisse.
Bah, la Suisse lave plus blanc. Je lui avais ça déjà, okay. quoi, je pense, quelque chose comme ça. Quoi.
Ok, parce que tu m'as dit. J'accepte ce deal avec le capitaine de l'armée suisse parce que vous avez déjà en tête de faire la révolution.
Oui.
Donc comment ce plan se met en place?
Pas spontanément, au cours de nos discussions à Bellechasse. On avait une stratégie. Daniel m'a beaucoup aidé, mais j'étais d'accord dans les grandes lignes avec ses buts.
Mais du coup, c'était quoi les arguments Non, je fais la.
L'avocat du diable.
Non, je fais pas l'avocat du diable, mais je veux dire par rapport à ce qui est différent, disons, du coup, ce qui m'intéresse, mais je veux dire, en tout cas, même moi, ou les gens de ma génération, on s'est dit souvent on va faire la révolution ou quoi, mais on n'est jamais passé à l'acte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment. Quel discours, quelles stratégies ont été mises, discutées pour que ça soit aussi fort, pour que vous dites, pour que justement tu dis, je vais accepter ce deal avec ce capitaine parce que je vais passer à cet acte-là.
Comme ça, je peux sortir et
Ouais.
puis légalement, oui. Ben, ma colère, ajoutée à celle de Daniel, évidemment, il m'a influencé dans ce sens-là qu'il était beaucoup plus en colère que moi. Moi, je me suis dit, mon désir d'aventure, ben, je vais le réaliser dans aussi un truc social, un truc qui, l'injustice dans le monde, tous ces enfants qui crèvent de faim, qui meurent de faim, je le savais. La guerre du Vietnam, je sais toutes ces injustices, je savais. J'avais envie de faire quelque chose, changer le monde, quoi. Voilà. Puis j'étais aussi d'une famille catholique. Il y a un côté culpabilité. Je me souviens que ma mère, quand on mangeait, elle disait, faut finir cette assiette. Pourquoi, maman, vous venez, j'aime pas. Ben, les petits noirs, les petits nègres, ils n'ont pas à manger. Alors, toi, il faut que tu manges. Enfin, toutes ces histoires-là de culpabilité aussi.
Excusez-moi, je vais répondre parce que j'ai pas les numéros. Excuse-moi. Merci.
Pas de problème.
Donc, ouais, tu disais de truc de culpabilité comme ça.
Oui, et puis de mettre mon désir d'aventure à un service qui me plaisait. La révolution. Il y avait Baader, tout ça, et puis ça me fascinait aussi un peu. Tu vois, adrénaline pour les jeunes, facile. Adrénaline en vitrine, c'était de l'adrénaline en vitrine, Baader, tout ça. Mais ça me plaisait bien comme idée pour concrétiser mes désirs d'aventure et de risque. J'ai toujours aimé le risque.
Qu'est-ce qui te plaît dans le risque?
Le risque? Ah oui.
Oui, mais y a plusieurs risques. Y a le risque. Il y a le risque qu'on va draguer une nana, puis on se fait refuser. Il y a le risque de mourir.
Oui, précisément. Le risque se blesser, mourir. Et puis si j'en réchappe, c'est tellement beau la vie. Ce challenge, je sais pas comment on dit, risqué.
Puis ça vient de là, le surnom kamikaze.
Je pense, ouais. Après, dans la pratique, ouais, j'ai pu. Ils ont vu que j'étais un peu kamikaze, ouais, mes amis.
Donc bon, plusieurs choses. Je vais rester encore sur le côté révolution que vous mettez en place en prison. Après, je vais revenir encore sur Bader parce que ça m'intéresse aussi. Donc par rapport à la révolution, votre premier plan, c'est quoi? On sort de prison et puis.
On s'arme. Il faut des armes. Il faut des papiers d'identité. Il faut des planques. Et il faut de l'argent. Et après, avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? Il en faut pour vivre, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors notre idée, c'était de financer la contre-éducation. La contre-éducation, il faut dire être un petit peu insolent ou prétentieux. Alors que moi, j'ai refusé d'être instituteur, finalement, tu vois.
Ouais.
Et la contre-éducation, contre-information. Voilà.
Mais du coup, pourquoi dans contre-éducation, j'arrive à le voir, mais la contre-information, j'arrive à le voir, la contre-information, c'est parce que vous avez le sentiment que vous n'étiez pas informé correctement. Qu'est-ce
Oui, que
que.
le peuple, que nous, n'est pas informé. Que la télévision appartient à l'État, que les radios appartiennent à des privés et à l'État, et puis que c'est des nouvelles filtrées, et puis que c'est des outils de propagande du pouvoir, des gens qui ont le pouvoir. On s'en rendait bien compte, je m'en rendais compte aussi. Hein.
Et puis de la révolution, on va dire, excuse-moi, la question va sembler bête, mais c'est une révolution contre quoi?
Le système autoritaire, pour moi c'était le système autoritaire. Je mettais même pas le mot révolution anarchiste. Je mettais même pas ce mot-là.
Mais du coup, cette autorité, elle était incarnée par quoi ou par qui?
Déjà mon père, l'école, l'armée qui m'a mis en prison, et puis tout ce système qui nous fait travailler, dormir, dépenser, tout ce système, cette violence, la violence structurelle, je la sentais, hein.
Là, je fais l'avocat du diable, parce qu'il y a quand même ce truc, par rapport aussi au milieu rural, mais je ne fais, je cite sans vraiment le citer, mais peut-être tu connais le professeur Choron de d'Harakiri et tout ça, qui est quand même en grand libertaire quelque part. Mais il y a une dernière interview qu'il a donnée quand il était de son vivant, mais en 2005-2004, donc une des dernières vraiment, il avait déjà 70 ans comme ça. Puis justement, il dit, par rapport au travail, il dit, mais il faut travailler. Il critique, sans vraiment le critiquer de manière directe, mais ce qu'on appelle l'État-providence, à la française, comme on aime bien dire en Suisse. Ben, il dit, ben, l'homme de Cro-Magnon devait aller chasser pour manger. Le travail, donc, aujourd'hui, est nécessaire. Donc, comment... Je me perds un peu, mais je veux dire, comment... Ce système que vous voulez...
Contre lequel nous luttions,
Ouais,
nous voulions lutter.
oui. Puis en même temps... comment résoudre ce truc de survie, de travail, de subsistance?
Ben, je ne voulais pas travailler pour les patrons. Travailler, j'ai toujours aimé faire des trucs avec les gens. Encore maintenant, je travaille souvent bénévolement, mais on me donne le gîte ou comme ça, pour gagner un peu d'argent, mais c'est pas réussi, la révolution n'est pas réussie, sinon ben, ça se saurait, quoi. Mais pas être obligé de travailler. Qui c'est qui en tire la plupart du bénéfice? Ben, c'est le patron, disons. Et nous, on doit toujours travailler pour payer à la fin du mois et recommencer, recommencer, recommencer. Il n'y a pas d'avenir, merde, quoi.
Du coup,
Il y a d'autres solutions. Il y a des économistes, Lotz, il s'appelle ça en français, puis d'autres économistes qui disent, qui prouvent qu'en travaillant 2 ou 3 heures par jour pour la collectivité, pour les routes, les hôpitaux, etc., pour tout, ben, ça suffirait. Donc ça, il dit qu'il y a 6 heures par jour qu'on nous vole. Qui c'est qui nous vole ça? Alors évidemment, l'État, les flics, pourquoi payer des flics? Pourquoi payer des militaires? Pourquoi payer des fonctionnaires? Si tu veux, tu vois, c'est ça. Ça n'amène à rien. Ça n'amène pas une solution de réfléchir à ça. Mais c'était la réflexion qui m'a aussi porté. Hein.
Et il y a ce mot qui je pense qu'à l'époque devait pas être, peut-être je me trompe, mais qui devait être moins en tout cas utilisé que ceux de ma génération, mais il y a un peu ce mot réussite. Donc, comment si t'arrives à te projeter un peu dans l'époque, qu'est-ce que c'était pour toi réussir sa vie?
À cette époque-là,
Ouais.
après la rencontre avec Daniel ou auparavant?
Ben, j'imagine qu'après la rencontre avec Daniel, c'est de réussir la
Ça, oui, c'est
révolution,
de
mais
réussir, oui.
à part la révolution, qu'est-ce que c'était l'idée de réussir sa vie, quoi?
Ben, je me souviens que je n'avais pas de désir de réussir. J'avais plutôt envie d'échouer. Ça, je peux le dire. Toutes les réussites que je pouvais voir autour de moi, elles ne me plaisaient pas. Je n'avais pas envie d'échouer au sens propre, mais j'avais plutôt envie d'échouer pour ne pas arriver à cette réussite-là. Et échouer, pour moi, l'aventure me suffisait. J'aurais aimé des fois avoir plus d'argent sur moi, mais j'ai jamais été à la rue. quand même, parce qu'on se démerde toujours, enfin on se démerde toujours. Tant qu'Européen en Suisse, j'ai toujours pu me démerder.
Ouais.
Donc la réussite, après notre rencontre avec, ma rencontre avec Daniel, c'était de faire des attentats, pas se faire choper, faire des hold-up, pas se faire choper, pouvoir financer des structures, pas se faire choper. Puis si on se fait choper, c'est la mort ou la liberté, tu vois. Je me sentais comme un Indien sur le chemin de la guerre. Mais sans but final, si tu veux. Réussir dans cette idée de faire la révolution, quoi. Participer. Puis j'avais certainement ce côté, pas martyr, mais culpabilité, quoi. Sacrificiel un peu. Me sacrifier pour les autres. Allez, c'est pas si mal que ça. Sacrifier pour les autres, c'est pas mal. T'es jeune et tout, non? Il y avait
C'est
ça
un peu
aussi.
l'héros, quoi.
Ouais, voilà, il y avait ça, quoi. Ouais. Je reconnais.
En quoi, non, parce que l'aventure comme ça, j'ai bien compris aussi quel type d'aventure t'intéresse, mais en quoi l'aventure, que je vais dire l'American Dream, en guillemets, pour le résumer, l'aventure de monter socialement dans l'entreprise, l'aventure d'acheter la voiture, de pouvoir aller en vacances. C'était aussi une aventure, je pense, pour les gens de l'époque, non?
Oui, pour beaucoup, oui, c'était ça.
Du coup, pourquoi cette aventure-là
Ouais.
t'intéressait pas? Elle avait pas ce côté héros assez
Il n'y
héroïque?
avait pas ce côté bandant. Je t'ai dit, j'ai vu ce film à 10-12 ans, hein. Ce gars qui était pourchassé par toutes les polices, et puis en fait c'était sûrement un agent américain, et puis qui s'en sortait, puis qui avait toujours des jolies copines, et puis qui avait une petite bagnole, le sport. Bon, les bagnoles, ça ne m'a jamais intéressé, mais quand même. Et puis qui était toujours pourchassé, puis qui m'avait l'air tellement sympa. C'est incroyable, mais.
C'est un peu James Bond,
Ouais.
mais... Bon, je vais peut-être revenir une autre fois sur ce côté-là, mais là maintenant, parce que je sais, je le livre là-dessous, mais c'est assez marrant que finalement c'est de l'industrie d'amusement américaine qui te...
Oui, ah oui,
Il y
total, quoi.
a ce retour de
Ouais.
fouet, comme on dit, autour de torchon qui se met, donc pour l'anecdote, c'est ça qui me... Non, moi, c'est un de ces trucs qui m'intéresse aussi. Je voulais aller sur Bader au moment, parce que justement, je pense qu'il... Après, je pense que pour aujourd'hui, on pourra gentiment finir, puis la prochaine fois, on va justement sur l'après-prison, donc tu as déjà un peu dit par rapport à ton faux recrutement et comme ça, mais après on passera vraiment à comment le groupe s'est formé. Mais là, je pense qu'on a pour le premier parti, on est déjà pas mal. J'ai juste encore envie de parler de Bader et peut-être d'une autre figure, en tout cas pour ma génération qui a été vendu plus comme une figure révolutionnaire que Bader, mais qui est le Che Guevara. Donc je pense qu'il lui aussi était quelqu'un qui aimait bien l'aventure, tant que je pense qu'il en est mort, parce qu'il aurait pu s'arrêter à un moment donné, puis il n'a pas voulu. Donc, et puis Bader, par rapport aussi à ce que tu dis de ce agent secret ou je sais pas quoi, j'irai voir cette série Hong Kong, c'est bien
Hong Kong,
Hong
oui, ça
Kong.
s'appelait. Oui.
J'irai faire des recherches là-dessus. Mais du coup, Bader est un peu l'incarnation de cet esprit.
De ce que je désirais, oui.
Parce qu'il a une fille, c'est un peu Bonnie and Clyde. Mais du coup, les infos, comment elles arrivent à cette époque?
Ben, j'arrivais par le canal normal, des médias normaux. J'avais pas, quand j'étais à Bellechasse et après ma sortie de Bellechasse, je n'avais pas accès à des fanzines ou des trucs comme ça, les Rotterdam Faction, c'était très peu traduit en français. Mais certaines choses étaient traduites en français, notamment ce qui s'était passé avec Petra Krause, une Italienne de Zurich, qui organisait des vols d'armes, de grenades, dans les dépôts militaires suisses pour les transmettre à la Rotherarmee Fraktion de Mannhof. Donc là, il y avait des petites fanzines, parce qu'elle était incarcérée longtemps, il y avait des comités de soutien pour elle, qui étaient traduits en français. Donc je comprenais leur lutte. Et ce qui m'avait aussi beaucoup impressionné dans les débuts de Bader-Meinhof, mais surtout de Bader, parce que Meinhof c'était plutôt intellectuel
C'est la
et...
théoricienne.
Oui, théoricienne. Bader avec sa copine Iseline, ou peut-être avec Meinhof, je ne sais pas, ils avaient... Bon, j'avais toute une expérience de communauté, hein, mais que nous, nous n'avions pas. Mais ils avaient commencé par foutre le feu à un grand magasin à Berlin ou
À
à
Francfort, ouais.
Francfort. Et ça, alors, moi je voyais ces magasins, l'innovation, la placette, tous ces trucs-là, mais j'avais envie de les cramer. Tout simplement, quoi. Cette consommation, tout ça, quoi. Donc, ça m'a beaucoup influencé. De l'aimer, pour l'aimer, pour aimer ce qu'il faisait.
Ouais.
Je voyais que c'était pas une brute, c'était pas des brutes. Je les comprenais, en
Parce que
fait.
là, l'anecdote là du grand magasin de Francfort, c'est justement c'est le début de Bader et Meinhof, mais qui sont encore dans Kommune
Yeah, je crois, oui.
Heinz à Berlin. Puis justement, eux, ils ont fait aussi tout un. J'ai toujours le mot en anglais, mais le tribunal, là, le procès, où justement ils sont arrivés à faire passer ça comme un acte artistique. Parce que aussi, ils avaient distribué des tracts où ils disaient. Arrêtant de voir la guerre au Vietnam à la télé, faisant brûler nos maisons pour avoir l'odeur du napalm à la maison, chez
Ouais, je le
nous.
connaissais pas, mais ouais.
Du coup, ils ont vraiment eu un grand procès et tout. Puis en fait, le truc du Francfort, ça a été le clivage entre le groupe. Parce qu'il y a eu cet acte avant qui était totalement, on va dire, bon enfant, ou vraiment un provocateur et tout, mais qu'ils ont été passés pour un truc artistique. Et puis il y a eu une partie du groupe dont faisaient partie Meinhof et Bader qui sont passés vraiment à l'acte. Et aussi, pour eux, c'était une manière du peu que j'en sais, mais plus ou moins ce que j'ai compris, c'était aussi une manière de refuser l'administration nazie qui avait été gardée par l'État allemand.
Oui, je l'ai appris plus tard, ça. À cette époque, je ne le savais pas.
Ok.
Je ne savais pas qu'en fait, c'était logique pourtant. Que tous ces anciens nazis, fonctionnaires nazis, ben, ils se sont retrouvés dans l'Allemagne de l'Ouest comme fonctionnaires, comme grands patrons. Ça, je ne le savais pas. Je pensais pas à ça du tout.
Donc du coup, par rapport à vous, votre action en Suisse, il n'y avait pas cette... Il n'y a pas eu de passé nazi, mais vous aurez pu vous dire, ben, ils ont aidé les juifs, ou
Non,
ils n'ont pas aidé les
non.
juifs. Il n'y a pas eu ce...
Personnellement, je n'ai pas jamais eu cette réflexion à l'époque.
Ok.
Non. Daniel, peut-être, mais il m'en avait jamais parlé en tout cas.
D'accord. Ben, je lui poserai la question aussi. Donc c'est... Ouais. Plus ou moins, c'est le sentiment d'injustice ou d'inégalité sociale,
Oui.
si on devrait trouver une...
Je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans ce que je pensais à l'époque. Ce
Ouais.
serait du mensonge.
Oui.
Voilà.
Donc, ouais, injustice sociale et amour de l'aventure
Oui.
pour trouver une... Ok, et du coup, justement, pour encore parler d'une figure... Donc par rapport au Che, parce que le Che est devenu très, très mythique, on va dire, dans les années 90, je pense, mais...
Je suis content qu'ils soient morts.
Pourquoi?
Ils m'auraient piqué toutes mes copines. Ça.
Mais du coup, le Che, est-ce qu'il était déjà
Oui,
arrivé comme...
si, si. Ben oui, il était mort avant notre histoire, en hein, 67, je crois.
Ouais.
Si, le Che, c'était un mythe, quoi. C'était aussi quelqu'un à accompagner, à faire comme, à suivre. Il y avait les Tupamaros en Argentine, non, en Uruguay, je crois, surtout,
Ok.
qui se battaient. Ils faisaient la guérilla urbaine.
Tupac
Maros, Maros.
Maros.
Maintenant, ils sont au gouvernement.
Ouais, c'est celui-là, le
Je
président
crois, quelque chose, ouais.
qui vit avec rien.
Je crois, ouais.
Mais du coup, comme.
En fait, si je peux ajouter quelque chose, c'est que j'avais connaissance des milieux sociaux, populaires dont venait le Che et dont venaient les Tupamaros. Ils étaient liés avec le peuple. Comme que j'ai appris plus tard, Bader-Meinhof, ils avaient fait des tentatives communautaires multiples avant qu'une partie du groupe décide d'en arriver là. Nous, nous sortions de rien. C'était trop tard. Moi, je sortais de l'histoire que je t'ai racontée, Daniel de la Sienne.
Ouais.
Donc, nous étions déjà à la base séparés des intérêts du peuple révolutionnaire, pour dire, ou du peuple soumis, ou du peuple qui avait envie de se battre.
Ouais.
On n'était pas en prise. Hein. C'était l'échec à la base, dans ce sens-là.
Ouais, je pense que c'est le truc qui est, permets-moi le terme, marrant, mais c'est, disons, singulier, c'est justement que ça a été fait en Suisse, où apparemment rien ne donnait de
Oui,
raison
raison, oui.
pour faire ça, disons, quelque part.
Mais pas qu'en Suisse, la dernière, à part Rouillon, Jean-Marc Rouillon, l'action directe. Eschler, Schler, même pas, non. À part Rouillon, action directe provenait aussi de rien. C'était des anciens trotskistes, communistes, oui, ils faisaient partie d'organisations. Mais il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas d'anti. Il n'y a pas eu de dictature, il n'y a pas eu de nazisme. Oui, il y a eu le nazisme, mais bien avant.
Ouais.
Il sortait aussi d'une classe moyenne. Sauf Rouillon, qui avait beaucoup milité contre Franco. Il passait des armes à Barcelone. Il a fait des hold-up à Barcelone avant d'arriver sur Toulouse, de faire des groupes, et puis pour finir Action Directe. Mais les autres proviennent de rien non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'en Suisse, c'était un peu bizarre, oui.
Ouais, bah c'est le même temps. J'avais une question qui vient de me sortir de la tête. Est-ce qu'elle va me revenir? Non, elle va pas me revenir. Oui, du coup, à part cette envie d'aventure et tout ça, mais comment. Pourquoi vous n'êtes pas dit à un moment donné on fait en fanzine on fait des actions de ce genre-là quoi comme...
On était direct dans cette volonté-là.
Pour vous c'était une manière d'être plus efficace.
Oui. C'était peut-être aussi la facilité.
C'est plus rapide.
Ouais. La facilité, plus rapide, oui, la facilité, et puis un déficit politique. C'est dû à un déficit politique.
T'entends quoi par déficit politique?
Ben, peu, pratiquement pas de ma part d'expérience politique auparavant, de discussion politique, de participation à des groupes, squat ou trotskiste ou anarchiste, je ne sais pas quoi.
Ouais.
Donc, ça, notre expérience qui est sortie de tôle, et de notre passé respectif, mais disons, la tôle, c'était le carrefour pour nous réunir et voilà. Et ben, je ne dis pas que c'est un accident, mais c'est un peu léger. Ouais, politiquement, c'était un peu léger, quoi. Heureusement qu'on avait la force, l'énergie, des idées. Puis voilà, prof, on est parti de rien, si tu veux.
Ouais, du coup, c'était parce que moi aussi, pour connaître un peu les milieux comme ça, mais c'est il y a un peu ce truc où ça passe beaucoup de temps à parler et de prendre des discussions, puis finalement on fait rien parce qu'on puis du coup, quasiment le duo toi et Daniel, ça fait que Daniel a des idées précises, puis quelque part il a pas en face de lui quelqu'un qui va lui faire une dialectique où il contredit, mais quelqu'un qui va lui dire oh, ben, on le fait. Puis quelque part, c'est aussi par rapport à ce que tu dis des autres du groupe, des objecteurs de conscience, t'es quasiment le seul, comme tu as dit, prolo. Puis probablement, si vous n'étiez pas rencontrés, il aurait discuté avec tous les autres intellos, puis
Il serait rien
il
passé.
serait rien passé.
Je pense, ouais.
C'est un peu ce duo-là qui
Oui,
fait que ça prend, quoi.
oui.
Et la dernière question pour aujourd'hui, un peu provocateur, excusez, mais
Triste.
provocatrice, merci. Mais je sais pas, si, en tout cas à l'époque ou peut-être maintenant, mais tu vois l'histoire de George Orwell, Animal Farm.
Oui, ferme des animaux.
La ferme des animaux. Je sais pas si tu l'as lu
J'ai
après.
lu après.
Après.
Oui.
Du coup, justement, quand on se fait la révolution, on se dit qu'on va prendre le pouvoir des puissants, puis qu'on va on va le gérer mieux.
Oui.
Puis ça, c'était une idée, ou vu que tu dis que c'est un peu une cause perdue, c'est juste l'action pour le faire, ou vous avez quand même une idée aussi de comment vous allez gérer?
Bon, alors, le pouvoir, prendre le pouvoir, ça ne m'a jamais effleuré, sauf dans les discussions humoristiques. Moi, je lui ai dit que quand on aura le pouvoir, je serai ministre des droits de la femme. Jean-François, lui, sera ministre des affaires commerciales, là, ça, parce qu'il est très fort pour le business, le commerce. Et puis Christian, un autre, lui, sera ministre social, parce que c'était un ancien toxicomane. Puis il avait beaucoup de contacts avec les déshérités du Carmont, chez nous. Voilà, mais ça, c'était que des discussions humoristiques. J'ai jamais imaginé pouvoir prendre le pouvoir, que je ne voulais pas, de toute façon.
Ouais.
C'était plutôt, d'une part, l'action pour l'action, et puis participer à financer des structures, et puis après, ils se démerdent, quoi. Voilà.